Radio Cité Genève.
Genève internationale. Épiphanie Monfo.
Bonjour à toutes et tous. Tout récemment, le Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a dévoilé la sculpture en bronze dénommée Future Memory Tricycle, créée par Akira Fujimoto et Canon RC. Cette œuvre poignante représente le tricycle de Shinichi Tetsutani, une jeune victime de la bombe atomique d'Hiroshima, symbolisant à la fois la mémoire des victimes et un appel à la paix. La famille Tetsutani était présente à Genève aux côtés des artistes et des représentants du musée ainsi que Daikan. Bonjour Pascal Fusmid.
Bonjour.
Merci de me recevoir ici au Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dont vous êtes le directeur. Qu'est-ce qui a motivé le musée donc à choisir cette œuvre spécifique pour enrichir sa collection?
Alors nous avons eu l'immense chance de recevoir cette œuvre. C'est une donation de ICAN, la conférence internationale pour le désarmement nucléaire, l'abolition de l'arme nucléaire. Et c'est un don aussi de la ville de Genève, et ces deux entités nous ont fait confiance de pouvoir accueillir cette œuvre chez nous. Et c'est aussi la confiance de la famille de Shinichi Tetsutani, le petit enfant à qui appartenait ce tricycle, qui nous honore et qui nous permet de recevoir cette œuvre qui intègre donc nos collections de manière pérenne.
Comment Future Memory Tricycle s'inscrit-elle dans la mission du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en matière de sensibilisation aux conséquences des conflits armés?
Cette œuvre s'inscrit parfaitement dans notre mission qui est celle de discuter et de réfléchir avec tous nos différents publics à une question que nous explorons dans toutes nos activités, mes collègues et moi, et cette question est simple et complexe en même temps. En quoi l'action humanitaire nous concerne-t-elle toutes et tous ici et maintenant? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Et je le dis en sachant que ici à Genève, une ville en paix qui n'a pas vécu la Seconde Guerre mondiale de la même manière que le Japon, et bien souvent, l'action humanitaire est une information. C'est quelque chose qu'on voit dans un livre d'histoire, c'est quelque chose qu'on voit dans un écran dès qu'on allume un portable ou la télé, on le voit dans les journaux. Et on peut se dire peut-être, vu d'ici, que ce sont des choses qui se passent ailleurs ou ce sont des événements distants. Mais dans l'histoire où maintenant, partout dans le monde, il n'y a que des personnes comme nous ici à Genève qui ont envie d'avoir des vies banales, parce que c'est un luxe immense d'avoir une vie banale. Et ce sont des personnes qui vivent leur vie, des enfants qui jouent, des enfants qui ont des tricycles comme nous. Et cette œuvre-là, cette sculpture du tricycle de ce petit garçon de 3 ans, nous rappelle comment a été vécu ce moment de la Seconde Guerre mondiale dans l'intimité d'une famille. Et nous rappelle que partout dans l'histoire, mais aussi maintenant partout dans le monde, il n'y a que des histoires personnelles et des histoires individuelles. Et donc pour nous, c'est une manière de rappeler le premier principe de l'action humanitaire, le principe d'humanité, de rappeler que les statistiques, les livres d'histoire ne sont pas abstraits, il n'y a que des histoires personnelles dans ces grands moments, et de rappeler que lorsqu'on regarde les nouvelles aujourd'hui, lorsqu'on allume la télé, c'est très important d'accueillir cette actualité à travers ce prisme-là, et de se dire qu'on parle d'abord de personnes comme nous, à qui il arrive des choses hors du commun, et penser à comment on veut vivre ensemble, penser à comment on peut comprendre ce principe d'humanité dans notre vie à tous et à toutes ici et maintenant, c'est le message de cette œuvre d'art.
Justement, en parlant de cette œuvre, quelle a été la réaction de la famille Tetsutani lorsqu'ils ont vu la sculpture pour la première fois?
Alors, il y a un grand chemin qui a permis d'aboutir à l'inauguration d'aujourd'hui. Tout d'abord, c'est important de comprendre que nous parlons ici de l'histoire intime d'une famille. Une histoire qui a été soumise à un tabou et à un non-dit pendant des décennies. Pendant des décennies, ça a été très difficile de raconter cette histoire. Ce que je comprends, et c'est seulement récemment que la famille a commencé à en parler, a commencé à en parler publiquement. Il y a eu ce moment clé en 85 où la famille a donné le tricycle original au musée d'Hiroshima, le musée de la paix, et où le père de Shinichi a dit « voilà, je vous donne ce tricycle pour que tous et toutes puissent toujours se rappeler que les enfants, ils devraient juste pouvoir jouer, ils devraient juste pouvoir être des enfants ». Ça a été un moment très important. Et ensuite, la famille a pris confiance en contact avec les artistes qui ont créé l'œuvre que nous accueillons, en contact avec les institutions qui nous soutiennent. Et c'est surtout et d'abord leur histoire à eux que nous présentons. Et donc, cinq représentantes de la famille sont venues. D'autres sont trop âgées pour voyager. Pour plusieurs d'entre elles, c'est la première fois qu'elles quittent le Japon. Et lorsqu'elles sont arrivées ici, elles sont arrivées très émues de voir le tricycle de leur aïeul présenté au musée. C'était très émouvant, bien sûr. Je crois qu'elles ont ressenti aussi beaucoup de confiance dans la sincérité, l'authenticité avec laquelle nous allons prendre soin de l'histoire de Shinichi Tetsutani. Et c'était très beau aussi de voir à quel point elles ont compris l'importance pour nous de présenter cette œuvre au rez-de-chaussée. Il n'y a pas besoin d'acheter un billet d'entrée pour voir l'œuvre. Et l'œuvre est entourée de vie. Il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent. Elle est à côté de notre nouveau café. Et ça, c'est une manière de montrer aussi que la bombe nucléaire a tellement détruit, mais elle n'est pas parvenue à détruire les liens au sein de cette famille et la mémoire de Shinichi Tetsutani. Et elles sont donc heureuses que l'œuvre soit ici.
Pascal Schmitt, pouvez-vous nous parler à présent de la collaboration avec les artistes Akira Fujimoto et Kenon Hersey pour cette installation?
Pour nous, au musée, c'est extrêmement important d'écouter les artistes, d'apprendre avec les artistes, parce que l'art est une manière d'approcher le monde, l'art est une manière de comprendre les complexités des enjeux humanitaires. Et mes collègues et moi avons beaucoup appris en contact avec ces deux artistes exceptionnels. C'est très difficile de reproduire un objet aussi symbolique. C'est un objet mémoriel sacré au Japon. Et le reproduire avec autant de tact, avec autant d'intelligence, est vraiment à leur crédit. Ils ont investi un soin très important aussi dans la façon dont l'objet est présenté. Il est présenté sur un socle, il est éclairé d'une manière très précise. Et surtout, ce qui est très beau, c'est que la sculpture n'est pas sous un dôme de verre. Elle n'est pas sous du plexiglas. Et ici, c'est un pas que nous avons voulu franchir avec eux, c'est de dire que, bien sûr, on prend soin de cet objet, mais que c'est un objet du quotidien, un objet qui parle à notre quotidien. Et donc, c'était important pour nous de pas le mettre sous cloche et de peut-être encore entendre les rires du petit garçon qui jouait dessus.
De pas le mettre sous cloche, donc cet objet qui est visible aussi. Comment justement espérez-vous que cette œuvre résonne auprès des visiteurs et visiteuses du musée, en particulier les jeunes générations?
Je crois que, y a plusieurs choses. La première chose, c'est que cette œuvre est présentée avec beaucoup de tact. C'est un petit objet du quotidien. C'est un objet qui intrigue, on le voit dans l'entrée, on s'en approche, on comprend pas tout de suite ce qui est arrivé à ce tricycle qui est tout cabossé. Puis on lit l'histoire et après on le regarde de manière différente. Et pour nous, cet espace qu'on laisse libre à l'imaginaire de notre public est très important, surtout auprès des jeunes. Parce que imaginer être soi-même dans cette situation, bah après on peut se dire, bon, qu'est-ce que moi j'aurais fait? Qu'est-ce qui se passerait? Pourquoi on en est arrivé là? La famille tout à l'heure parlait de l'importance pour les enfants et pour les plus jeunes de se poser des questions de pourquoi on est arrivé à cette situation et surtout et par conséquent comment on peut éviter à nouveau ce genre de situation. Et chacun est libre de comprendre cette œuvre de son point de vue, dans son expérience de vie. Mais je souhaite, et mes collègues se joignent à moi aussi, que lorsque les personnes quittent le musée, ce soit aussi cette œuvre-là qui les accompagne en s'interrogeant sur, bon, et moi, qu'est-ce que je prends comme décision dans le préau de l'école, comment est-ce que je m'occupe ou pas des gens que j'aime dans mon quotidien, comment je peux être un acteur, une actrice du soin dans la société, du vivre ensemble. Cette question, elle est vraie pour les enfants, elle est vraie pour les adultes, et c'est pour ça que cette œuvre est importante.
Avant de se quitter, pouvez-vous nous donner un aperçu des prochaines expositions ou événements prévus au Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge autour des thèmes de la paix et de la mémoire historique ou tout autre?
Je vous remercie. On a en effet une actualité dense. Dès aujourd'hui, le tricycle est visible donc au rez-de-chaussée en libre accès. Et je vous invite tous et toutes à nous rejoindre le 2 octobre. Nous avons un gros vernissage d'une exposition exceptionnelle que ma collègue Elisa Ruska a montée. C'est une exposition qui, pour la première fois, va explorer le patrimoine sonore de l'action humanitaire. Qu'est-ce qu'on entend quand on regarde l'action humanitaire? Qui parle? Qui ne parle pas? Qu'est-ce qu'on a enregistré de l'action humanitaire à travers l'histoire? C'est une première grande exposition sur ces archives exceptionnelles que nous conservons ici dans la Genève internationale. Et aussi, il y aura une dizaine d'artistes contemporains et contemporaines que nous avons invités à raisonner avec ce matériel. Et d'ailleurs, le soir du vernissage, il y aura une performance d'un compositeur italien, Piero Mottola, qui a imaginé une œuvre sonore en collaboration avec une quarantaine d'humanitaires qui ont été bénévoles aussi au musée. Donc venez, ça sera une autre manière de réfléchir à l'histoire, mais aussi au présent. Et ce sera un moment convivial, ça l'est toujours. On est avant tout et toujours des personnes qui partageons des moments de vie. On a la chance d'être en vie, on a la chance d'être ici à Genève, donc célébrons ça ensemble.
Merci à vous, Pascal Hufschmidt, directeur du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Merci également à toutes et à tous et à tout bientôt.
Merci, au revoir.